Eh ben, bonsoir à tous ceux à qui je vais dire bonsoir déjà. Commencer. Avant de commencer notre débat dans le cadre des élections européennes, je voulais vous présenter Valérie Foisset, qui est candidate dans la liste aux élections et qui est aide-soignante au CHU de Rouen. Moi-même, Pascal Domanac, je suis également candidat sur la liste pour les élections et je suis ouvrier à Renault-Cléon. Et je vous présente, pour ceux qui ne connaisseraient pas, Jean-Pierre Mercier, qui est ouvrier à PSA Poissy et qui est porte-parole nationale de lutte ouvrière avec Nathalie Arthaud. Eh bien, je lui donne tout de suite la parole.
Bien, bonsoir à toutes et à tous, parce que je n'ai pas vu. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une petite introduction d'une demi-heure, pas plus, j'espère, en tout cas. Et puis après, sur la situation générale, la situation politique et sociale. Et puis après, si vous voulez, on pourra débattre entre nous de toutes les questions qu'on se pose, de nos accords, de nos désaccords, voilà, tout ce qui... Et on pourra discuter vraiment de tout ce qui nous gratte la tête en ce moment. Hier, il y a eu la manifestation du 1er mai. Vous avez pu voir les chiffres. C'est une mobilisation qui est en augmentation par rapport à celle de l'année dernière. Même dans certaines villes de province, beaucoup plus que l'année dernière. Et ça, il faut s'en féliciter. Parce que ça veut dire que c'est toujours bon quand on est toujours plus nombreux à descendre dans la rue, malgré, je parle pour Paris, parce que dans la province, ça a quand même été le cas, la même répercussion, bien qu'à Paris, le gouvernement, les médias ont tout fait pour essayer de dissuader les travailleurs de descendre dans la rue, avec cet état de psychose permanent qui était entretenu bien avant la manifestation. Je veux dire... Deux, trois mots sur les Black Blocs, puisque ça a forcément fait parler les médias. Et il y a eu toute une polémique, même aujourd'hui, sur ce qui s'est passé autour de l'hôpital de la Salpêtrière. Bon, les Black Blocs, ils prennent l'habitude d'intervenir régulièrement dans les manifestations des travailleurs. On n'est pas de ceux qui pleureront, par exemple, l'incendie du Fouquet's ou l'incendie d'un McDonald's. C'est pas notre propos. Pour autant... c'est pas nos méthodes. Les méthodes des Black Blocs qui consistent à s'affronter systématiquement avec la police et puis brûler deux, trois poubelles ou casser un guichet à billets de la Société Générale. Pour nous, c'est pas les méthodes, c'est des méthodes qui sont stériles, avec une violence au final qui est gratuite. Nos méthodes, celles que nous défendons, sur lesquelles nous militons, c'est les méthodes du mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'on appelle, nous on en appelle à la conscience des travailleurs et on défend les méthodes historiques du mouvement ouvrier, c'est-à-dire qu'on défend le fait que les travailleurs ont des intérêts à défendre dans cette société et qu'ils ne peuvent les défendre efficacement que collectivement, avec une conscience qu'ils ont justement des intérêts à défendre et avec leurs armes. Leurs armes, c'est leurs armes de classe, c'est les manifestations, c'est les grèves, c'est les occupations d'usines, les occupations des entreprises, les occupations des banques. Et nous, c'est ce militantisme qu'on défend non seulement dans cette campagne électorale, mais qu'on défend quotidiennement, au jour le jour, auprès de nos camarades de travail, dans les quartiers, dans notre famille, auprès de nos amis. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'il y ait eu beaucoup plus de manifestants hier par rapport au 1er mai de l'année dernière révèle qu'il y a cette colère sociale qui existe, qui s'est révélée entre autres par le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement populaire qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont manifesté cette colère sociale et qui révèle... qui a un énorme problème dans le pays, mais aussi qui révèle le fait qu'on ne peut pas vivre dignement de son salaire, qu'on ne peut pas vivre dignement de sa pension de retraite, et ça, malgré dans un pays aussi riche que la France. Dans cette campagne électorale, à Lutte ouvrière, on est seul à dénoncer clairement, sans ambiguïté, le pouvoir de cette grande bourgeoisie, le pouvoir du grand capital qui gère tout dans la société et qui mène sa dictature sur l'ensemble de la société. On est dans un pays riche et pourtant on a du mal à vivre avec son salaire, on a du mal à vivre avec sa pension de retraite. Les chômeurs sont attaqués sur leurs allocations, sur leurs droits. Et quand on voit, par exemple, pour illustrer la richesse qu'est la France, que c'est un pays riche, une des principales puissances économiques mondiales, un exemple très récent et qui a frappé les esprits au niveau national, c'est le fameux milliard que certaines familles bourgeoises ont mis d'une facilité déconcertante, ont mis sur la table pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Il faut avoir conscience que quand les Pinault, les Arnault, les Bettencourt, toutes ces familles bourgeoises mettent 200 millions sur la table, pour elles, c'est strictement rien du tout. C'est ça qu'il faut avoir conscience. Bernard Arnault, j'ai vu ça dans la presse, s'est acheté récemment un yacht de luxe de 130 millions d'euros. 200 millions d'euros, pour eux, c'est comme quand on donne 2 euros, 5 euros à SDF. C'est à peu près la même proportion. C'est-à-dire que Bernard Arnault, je parle de lui parce qu'il y a un magazine américain qui s'amuse tous les ans à faire le palmarès des familles, des hommes les plus riches de la planète. Il a été récemment classé 4e fortune mondiale. Et je dis récemment parce que ça a changé. Ça a changé au cours du mois de mars. Il est passé 3e. Il avait une fortune estimée au départ à peu près 67 milliards, puisque c'est assez compliqué même pour des journalistes d'estimer une fortune de ce genre de milliardaire. Ils ne sont pas un ou deux milliards près. Et en un seul mois, il a augmenté sa fortune de 10 milliards. Quelques opérations spéculatives bien juteuses, qui ont bien marché, lui ont permis de gravir une marche supplémentaire dans le palmarès. Maintenant, il est troisième. C'est quelqu'un c'est une famille qui possède le principal trust de luxe au niveau mondial. C'est toutes ces marques de luxe réservées aux bourgeois. C'est possédé par la famille Arnault, c'est LVMH. Pour ces gens-là, pour que les Pinault, les Bettencourt, les Peugeot, et derrière, il y a quelques familles qui sont moins célèbres parce qu'ils préfèrent vivre dans l'ombre, vivre cachés. Les riches préfèrent toujours vivre cachés plutôt qu'à la lumière, à part quelques-unes, qui aiment bien se faire voir et faire des opérations de com. Mais pour que ces gens-là, ces bourgeois, vivent dans le luxe, vivent dans les milliards, et ça veut dire que nous, les travailleurs, on doit crever. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ça dont il faut avoir conscience. On doit crever parce que c'est des licenciements sur licenciements, c'est des fermetures d'usines sur des fermetures d'usines. C'est des salaires qui sont bloqués. C'est l'accès aux soins qui est de plus en plus compliqué. C'est de l'éducation pour nos gamins qui est de plus en plus compliqué dans les quartiers populaires. C'est toute cette vie quotidienne qui devient de plus en plus dure parce que cette bourgeoisie s'accapare toutes les richesses que nous, les travailleurs, on produit. Quand je dis s'accapare, c'est réellement ce qui se passe réellement. Ce sont des milliards et des milliards qui nous sont volés, qui sont accaparés par ces quelques familles et qui se comportent comme un rouleau compresseur sur l'ensemble de la société. On peut penser qu'ils n'en ont jamais assez. Effectivement, ils n'en ont jamais assez. Mais ils sont pris dans un système de capitalisme où, de toute façon, c'est, y compris entre eux, c'est la guerre. Entre ces grands capitalistes, c'est la guerre. Si on prend l'exemple de l'industrie automobile, c'est la guerre entre Peugeot et entre Renault, entre Renault et Volkswagen, entre Volkswagen et Ford. C'est la lutte pour avoir le plus de parts de marché. Et quand on est dans une situation où on vit dans une crise économique qui est de plus en plus grave, de plus en plus profonde, quand le gâteau pour ces capitalistes, le marché, se rétrécit, c'est une lutte qui devient de plus en plus dure et qui nécessite pour ces capitalistes de la mener de toute façon sur le dos de la société avec l'impôt des travailleurs. Parce que pour eux, il n'est pas question qu'ils rognent sur leur marge, il n'est pas question qu'ils rognent sur leur fortune, sur leurs dividendes, sur leurs milliards, pour gagner des parts de marché. C'est toujours sur notre dos, sur le dos de la société et avec notre peau, que ces capitalistes se font la guerre. C'est comme ça que fonctionne le système capitaliste. C'est toujours le plus gros qui essaye de manger une part de l'autre plus gros ou qui essaye de manger le plus petit. Alors ça se fait sur notre dos, et quand on voit la politique d'Emmanuel Macron, avec sa conférence de presse là, où on sait que de toute façon, au bout du bout, c'est nous les travailleurs qui avons payé de toute façon toute cette politique, ça veut dire que des coups, des attaques, on va en avoir. Il faut s'y attendre. On va en avoir et de plus en plus, des attaques de plus en plus brutales. Emmanuel Macron a annoncé, entre autres, le fait qu'il va falloir qu'on travaille plus et qu'on travaille plus longtemps. C'est l'attaque sur les retraites, c'est l'attaque sur les 35 heures, c'est peut-être l'attaque y compris sur des jours fériés. Tout ça, c'est des coups et des attaques qui vont venir. Alors face à ça, il faut que les travailleurs ils mettent en avant leurs revendications. Ils mettent en avant des objectifs de lutte. Je parle d'objectifs de lutte, j'y reviendrai plus tard. Des objectifs de lutte pour défendre leur peau, tout simplement. Pour défendre leur existence, leur droit à l'existence, leur droit de vivre dignement. Il faut qu'ils mettent en avant un programme de lutte. Alors, dans ces élections européennes, c'est ce qu'on a décidé de faire comme campagne, de populariser, de mettre en avant un programme de lutte. Ce programme de lutte, il est extrêmement simple. C'est en partant de la réalité et de ce qui se passe dans le monde du travail, et entre autres, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes est parti aussi là-dessus, sur la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat, pour nous, quand on raisonne au niveau des intérêts des travailleurs, ça ne peut être qu'une augmentation des salaires, une augmentation des allocations, une augmentation des pensions d'invalidité et une augmentation des pensions de retraite. Mais cet objectif, ça veut dire s'attaquer au profit des grands capitalistes. Mais il ne faut pas que les travailleurs se limitent dans cet objectif, se limitent à simplement se mettre en lutte pour imposer des augmentations de salaire. On l'a vu dans le passé, et on l'a vu même y compris aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur cette annonce de l'augmentation de la taxe sur les carburants. Ils ont obtenu, avec leur mobilisation, le gel provisoire pour un an, c'est-à-dire que là, on a déjà passé 6 mois, de l'augmentation de cette taxe sur les carburants. Mais qu'en est-il de l'augmentation du prix du gasoil, du prix à la pompe? Après une courte baisse, l'augmentation du prix du gasoil ou de l'essence à la pompe, il est largement parti, il a largement flambé. Je ne vous fais pas le dessin, on est tous amenés à faire son plein d'essence. On voit tout de suite qu'il y a eu une flambée des prix. Ça veut dire que arracher à nos patrons des augmentations de salaire, au gouvernement des augmentations des pensions de retraite, ça ne peut pas suffire. En mai 68, 10 millions de travailleurs ont été en grève, l'économie paralysée et a été arrachée, imposée une augmentation de 30% du SMIC. En quelques mois, ça c'est un succès, c'est une victoire, c'est un succès à mettre à l'actif de la grève. Mais en quelques mois, cette augmentation de 30% du SMIC a été mangée, a été bouffée par l'augmentation des prix. Ça veut dire que si jamais dans le prochain mouvement social, la prochaine grève massive, la prochaine mobilisation déterminée, profonde, on arrachera des augmentations de salaire. Mais il ne faudra pas qu'on se limite à ça. Il faudra qu'on impose à nos patrons un système, le fait que nos salaires, nos allocations, nos pensions de retraite augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Parce que sinon, ça veut dire que c'est toujours nous qui sommes les dindons de la farce. Et on sait très bien comment c'est compliqué de se mettre en grève, comment c'est compliqué de se lancer dans une lutte, de se lancer dans une mobilisation. Alors autant que ça vaille le coup et que les travailleurs se fixent des objectifs de lutte qui soient conséquents et qui puissent défendre réellement leurs conditions de vie. Deuxième objectif de lutte, c'est, bien sûr, ça tourne autour de la question et du problème du chômage. Le chômage, c'est véritablement un cancer qui ronge toute la société, qui pèse non seulement sur ceux qui sont privés d'emploi, mais y compris sur ceux qui, aujourd'hui, entre guillemets, sont taxés d'avoir la chance d'avoir un emploi, d'avoir un boulot. Ça pèse sur les salaires, ça pèse sur les conditions d'existence, ça pèse sur les conditions de vie. Eh bien, il faut mettre en avant, ou ce qu'on met en avant, ce qu'on essaye de populariser, c'est l'interdiction des licenciements, l'interdiction des fermetures d'usines, l'interdiction des suppressions d'emplois. Et se répartir le travail entre tous. Ça veut dire imposer à nos patrons d'embaucher les chômeurs. D'embaucher les chômeurs et de se répartir le travail pour que on travaille moins et qu'on travaille tous. Qu'on puisse avoir un salaire à la fin du mois et qu'on puisse sortir nos camarades de cette misère qu'est le chômage. Le troisième objectif de lutte, c'est d'une certaine manière ce que les Gilets jaunes ont touché du doigt et ont essayé de mettre aussi comme question dans le débat, c'était l'utilisation, le contrôle de l'utilisation de l'argent public. L'argent public, c'est l'argent de nos impôts. Je dis de nos impôts puisque les riches payent de moins en moins d'impôts. Les bourgeois payent de moins en moins d'impôts avec les différentes politiques gouvernementales qui sont déroulées. Ceux qui payent les impôts, la TVA, etc., c'est nous, les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est la traité du monde du travail. Donc contrôler l'utilisation de l'argent public, c'est légitime. Et c'est une vraie question, et c'est une question qui est importante. Tout autant importante de contrôler l'argent privé. L'argent privé, c'est les bénéfices des entreprises, c'est les dividendes qui sont versés aux bourgeois, qui sont versés aux capitalistes. Contrôler, je travaille dans une entreprise, le groupe PSA, qui fabrique des voitures. On a fabriqué, donc je dis on, c'est les travailleurs, les intérimaires, les CDI, les fournisseurs, les sous-traitants, ont fabriqué, ont produit 3,3 milliards de bénéfices pour l'année 2018. L'utilisation de ces 3,3 milliards de chez PSA, c'est uniquement les actionnaires au sein du conseil d'administration qui vont décider de leur utilisation. Ils vont rendre de compte à personne. Ni au gouvernement, ni au syndicat, ni encore moins aux travailleurs. Et bien nous, ça, on conteste. On conteste cette idée, cet état de fait que c'est uniquement les capitalistes qui ont les décisions dans les conseils d'administration. Ce qu'on défend avec l'ensemble de ce programme, ces trois objectifs de lutte, ce qu'on défend comme idée essentielle, c'est qu'il faut que les travailleurs prennent conscience qu'il faut contester le pouvoir de la bourgeoisie sur l'ensemble de la société. Tant que les bourgeois dirigeront l'économie, dirigeront à travers leur État l'ensemble de la société, nous les travailleurs, on n'aura de cesse que de lutter. Il n'y aura pas de répit pour la classe ouvrière. Alors, ça c'est ce qu'on met en avant avec ce programme de lutte, c'est des objectifs de lutte qui nous paraissent essentiels quand les travailleurs auront repris confiance dans leur force collective, quand ils décideront de se mettre en bagarre, quand ils décideront de lutter et puis de monter à l'assaut. Encore faut-il, pour avoir conscience réellement de ses intérêts, encore faut-il savoir contre qui on doit se battre. Et là, on entend souvent dans les manifestations des Gilets jaunes, et c'est repris par un certain nombre de partis de gauche, pas que des partis de gauche, aussi plus à gauche, à la gauche de la gauche, ce slogan qui a été un peu unificateur dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est « Macron démission » ou « Macron dégage ». Il faut dégager maintenant. Bon. Nous, à Lutte ouvrière, on ne met pas en avant ce slogan. On ne met pas en avant, on n'en fait pas un objectif de lutte, le fait de dégager maintenant. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus, on essaye de l'expliquer, il faut que les travailleurs ils en aient conscience, que Macron n'est qu'un valet, Macron n'est qu'un pantin. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les travailleurs ils aient les idées claires et qu'il faut qu'ils s'attaquent non pas simplement aux pantins, mais qu'il faut qu'ils s'attaquent à ceux qui tirent les ficelles, à ceux qui tiennent les ficelles. Et ceux qui tiennent les ficelles, je les ai un peu évoqués, bah c'est cette grande bourgeoisie. C'est les Pinot, c'est les Arnaud, c'est les Peugeot, c'est les Bettencourt et les Michelin. C'est ceux qui possèdent les grands moyens de production. C'est ceux qui possèdent le capital. C'est ceux qui possèdent les banques. Il y a quelques temps, je le cite parce que c'est encore frais dans les mémoires, la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, numéro 2 du gouvernement, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un strapontin dans la hiérarchie gouvernementale, c'était un ministre d'État qui comptait dans le gouvernement. Il a démissionné, il a fait cet aveu, peut-être son seul instant de sincérité. Je ne discute pas de la politique qu'il a voulu mener au gouvernement, mais là, il a fait cet aveu qu'il démissionnait parce qu'il avait en face de lui des lobbies qui étaient tellement puissants que lui, il n'avait pas de pouvoir face à ces lobbies. Ce qu'il appelle les lobbies, nous, on appelle ça les capitalistes, les grandes entreprises, la bourgeoisie. Qui c'est qu'il avait en face de lui? Assez simple. C'était les capitalistes, les d'Areva, du nucléaire, c'était les capitalistes de l'automobile, les capitalistes du pétrole, les capitalistes des industries pharmaceutiques, des industries du plastique, des pesticides. Et bien, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que, et ça c'est un aveu de Nicolas Hulot, je trouve intéressant parce qu'il est révélateur de la situation et comment ça se passe, les relations entre les gouvernements et puis cette grande bourgeoisie. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ces capitalistes ont bien plus de pouvoir qu'un ministre d'État, numéro 2 d'un gouvernement. Et c'est ça que nous, on s'acharne à dénoncer jour après jour, et on se sert des élections régulièrement et de cette élection européenne pour dénoncer les vrais responsables de cette situation. Donner un autre exemple, en Algérie, des millions de travailleuses et de travailleurs descendent dans les rues depuis un certain nombre de semaines, et ils ont réussi, et c'est un succès à mettre à la lutte, à la révolte là-bas en Algérie, ils ont réussi à faire abdiquer Bouteflika, à faire en sorte qu'il ne prolonge pas un cinquième mandat présidentiel. C'est un succès. C'est un succès, mais le problème reste entier. C'est que reste en place le système, c'est-à-dire le capitalisme. Et derrière, ok, c'est pas Bouteflika qui va se présenter, mais ils ont mis un de ses meilleurs copains, je me souviens plus de son nom, pendant 90 jours, qui est chargé d'organiser les élections présidentielles, etc. Ce que je veux dire, c'est que Macron, déjà, avant qu'il démissionne, il a plein de solutions pour faire en sorte qu'un mouvement social s'arrête et aille sur le terrain des élections. On a eu l'exemple en mai 68, voilà, grève générale, De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale, et puis c'est parti sur un terrain, ça a quitté le terrain de la lutte de classe, et puis c'est arrivé sur un terrain électoral. Ce que je veux dire, c'est que derrière Macron, la bourgeoisie, elle a beaucoup de solutions de rechange, elle a beaucoup de fusils. Macron, à la rigueur, s'il devait démissionner, il serait utilisé comme un fusible. Il serait remplacé par un autre. Et on nous a fait le coup, je rappelle très rapidement, on nous a fait le coup avec Sarkozy. Souvenez-vous, à l'époque, Sarkozy était vomi, sa politique était révoltante, et c'était le sarkozisme. Il fallait lutter contre le sarkozisme, contre Sarkoland. De toute façon, on pouvait mettre n'importe qui. Ce qu'on nous faisait croire, ce qu'on nous disait à l'époque, on pouvait mettre n'importe qui à la place de Sarkozy, ça ne pouvait pas être pire. On a eu Hollande. Hollande, cet homme qui s'est fait élire avec ce slogan « Mon ennemi, la finance ». C'était tellement son ennemi, la finance, qu'il a pris Emmanuel Macron, sorti de la banque Rothschild, comme son principal conseiller à l'Élysée. Plus tard, il a nommé ministre de l'économie, puis maintenant, on l'a comme président de la République. Pour vous dire que les politiciens bourgeois, ils sont interchangeables dans cette affaire-là. Et que nous, on ne doit pas se tromper de véritables responsables. C'est pour ça qu'on n'en fait pas un objectif de lutte Macron-démission. Derrière nous, ce n'est pas le macronisme, on ne lutte pas contre le macronisme. On lutte bien sûr contre la politique de Macron, mais on lutte contre le capitalisme. Ce qu'il faudra dégager, au-delà de Macron, ça sera les capitalistes, ça sera les bourgeois. Et ça, c'est important que les travailleurs, le plus de travailleurs, aient conscience de cet état de fait que derrière Macron, derrière les politiciens, de gauche comme de droite, eh bien, il y a les bourgeois, il y a les capitalistes, et c'est contre cela qu'il faut s'attaquer. Et puis, on entend, parce qu'on est dans une campagne électorale européenne, on entend beaucoup, à gauche comme à droite, chez certains, dire que c'est l'Europe qui est responsable. C'est l'Europe qui est responsable du chômage, c'est l'Europe qui est même responsable de la politique que l'on subit ici en France, etc., etc. Camarades, on ne fait pas partie de cela. On ne fait pas partie à la fois de ceux qui disent que l'Europe est responsable de tout ce qui arrive aux travailleurs, que c'est l'Europe qui dirige Emmanuel Macron ou l'Assemblée nationale ou le gouvernement français, tout comme on ne fait pas partie de ceux, et là je cible Macron, avant je ciblais Le Pen, voire Mélenchon, et on ne fait pas partie de ceux comme Macron qui disent, qui se targuent d'une Europe sociale, que tout va bien en Europe, etc., etc. Nous, notre projet européen, on est internationaliste. Ce qu'on pense de l'Europe, d'une véritable Europe, c'est une Europe sans frontières. Une Europe qui serait débarrassée des barbelés, débarrassée des murs. Mais la vraie Europe, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas aux frontières existantes aujourd'hui de l'Union européenne. Ça serait une Europe qui irait du Portugal jusqu'à la Russie, de la Grande-Bretagne jusqu'à la Turquie. Nous, c'est ça ce qu'on défend comme projet européen, comme perspective européenne. Là où les femmes et les hommes, qui n'ont que leur salaire pour vivre, auraient, je prends l'exemple des migrants, auraient les mêmes droits de liberté de circuler, de s'installer où ils veulent, dans n'importe quel pays. Les mêmes droits que les capitalistes. Vous savez, quand vous êtes un milliardaire, que vous soyez de n'importe quel pays, de n'importe quelle religion, on ne vous pose pas la question. Si vous voulez vous installer en France, vous êtes, c'est tapis rouge. Par contre, quand vous êtes un travailleur, quand vous êtes un médecin, quand vous êtes un migrant, ce qu'ils disent eux, migrant, vous avez par contre les barbelés, vous avez la police, vous avez la totale contre vous. Donc nous, on est internationalistes. Cette Europe, l'Europe des travailleurs, elle est pas constructible dans la situation actuelle avec le capitalisme. Il faudra que l'ensemble des travailleurs change la société de fond en comble. Mais on ne veut surtout pas, dans ces élections européennes, tomber dans le piège que les grands partis essayent de nous tendre, à la fois Macron d'un côté et puis Le Pen de l'autre, en disant, soit il faut sortir de l'Europe, soit il faut y rester. Quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, nos frères en Angleterre, ils sont en train de payer la note du Brexit. Ils la payent sous forme de licenciement, sous forme de fermeture d'usines, etc. Pour les travailleurs des pays qui vont rester dans l'Europe, on continuera à payer la note, de cette Europe. Ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, les capitalistes s'arrangent toujours pour que ce ne soit pas eux qui paient. Que le pays sorte ou qu'il reste dans l'Europe, c'est toujours aux travailleurs qu'on demande de payer la note. C'est ça la réalité. Alors, ce qu'on veut défendre comme idée, comme perspective, c'est autre chose que se déterminer est-ce qu'il faut rester dans l'Europe ou est-ce qu'il faut partir de l'Europe. Ce qu'on dit, et l'Europe, c'est une véritable machine de guerre contre les travailleurs. Et ça ne peut pas être autre chose. Cette Europe, elle a été construite par les capitalistes, pour les capitalistes. Tout comme l'État français. L'État français, les institutions françaises sont une véritable machine de guerre contre les travailleurs en France. Et pas que en France, d'ailleurs. Pas que en France. Sur une bonne partie de la planète. Là-dessus, il n'y a pas photo. Nous, on ne veut pas tomber dans ce piège où il faudra qu'on choisisse est-ce qu'on est pro-européen à la sauce capitaliste ou anti-européen à la sauce Macron, à la sauce Le Pen. Nous, ce qu'on veut dans cette élection européenne, dans cette campagne électorale, justement, c'est de mettre en avant les intérêts des travailleurs. Dire haut et fort, et le plus fortement possible, et c'est pour ça qu'on se présente, et c'est pour ça qu'on appelle à voter pour la liste Touraine, c'est quand on est un travailleur, avoir conscience qu'il a des intérêts à défendre dans cette société. Et qu'il faut qu'il mette en avant, comme Macron l'a mis en avant dans sa conférence de presse, une feuille de route pour les patrons, pour le grand patronat, il faut que les travailleurs y mettent en avant des revendications, ils mettent en avant leurs conditions, ils mettent en avant leurs feuilles de route, leurs objectifs de lutte. Alors bien sûr, ce programme de lutte, ces objectifs de lutte, il faudrait une mobilisation puissante, massive, déterminée pour pouvoir imposer ça, non seulement au gouvernement, mais à l'ensemble du patronat. C'est une évidence. On n'en est pas encore là. Maintenant, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, il y a eu une mobilisation populaire. Et des mobilisations comme ça, c'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Des contestations, il va y en avoir d'autres. Des mobilisations, il va y en avoir d'autres.
Nous, à l'Équipe ouvrière, on a peut-être cette spécificité, c'est qu'on mise sur les contestations, les futures mobilisations de la classe ouvrière, des travailleurs. Pourquoi ? Premièrement, parce que on pense, et on le dit dans ces élections européennes, le changement ne peut venir que par le bas. Il ne viendra jamais d'en haut. Il ne viendra jamais d'une Assemblée nationale ou d'un président de la République. Il viendra toujours des mobilisations populaires. On voit ce qui se passe en Algérie, on voit ce qui se passe au Soudan. C'est comme ça que ça peut bouger. C'est comme ça que la vie peut changer pour les travailleurs, en luttant collectivement, en ayant conscience de leurs intérêts. Et puis pourquoi, nous, on mise sur les révoltes, les futures révoltes et les futures mobilisations de la classe ouvrière ? Parce qu'ils sont au cœur du système. Ils sont au cœur du système capitaliste. C'est eux, non seulement qui produisent toutes les richesses, tous ces milliards, toutes ces centaines de milliards, mais c'est eux qui font fonctionner l'ensemble de la société. Sans le travail de l'ensemble des salariés, il n'y a strictement rien qui fonctionne. Ils sont aux avant-postes, ils sont là où ils peuvent, où c'est le plus efficace, les luttes sociales de la crise ouvrière, c'est les plus efficaces pour peser sur les événements, pour peser sur les décisions, pour peser sur les décisions non seulement du pouvoir politique, mais aussi pour peser sur les décisions des conseils d'administration des grandes entreprises. C'est pour ça que on a tenu absolument dans cette campagne électorale à faire en sorte que le camp des travailleurs se fasse entendre face à la dictature du grand capital. Parce que dans des élections, vous savez, ce qui peut se passer au Parlement européen, le Parlement européen, il n'a aucun pouvoir. Zéro. Tout comme le Parlement français. Zéro pouvoir. Ce sont des chambres d'enregistrement. Point bas. Point final. Les décisions, elles sont prises au sein des conseils d'administration, répercutées dans le gouvernement. Et ce qu'ont besoin les capitalistes, les bourgeois, c'est un homme à la tête de l'État qui leur fasse une politique, qui défende leurs intérêts, qui défende leurs profits, qui défende leurs dividendes, qui défende leur société et qui défende leur train de vie de luxe. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça, dans ces élections européennes, on tient absolument à populariser des objectifs de lutte, encore une fois, qui nous paraissent incontournables, qui nous paraissent vitaux, pour que quand les travailleurs auront repris confiance dans leur force collective, quand ils redescendront dans la rue, quand ils occuperont les entreprises. Parce que dans ce moment-là, dans ces moments-là, il faudra vraiment savoir non seulement contre qui on doit se battre, mais aussi pourquoi on doit se battre et se méfier des faux amis. Voilà, alors nous, on garde confiance, une confiance inébranlable dans la capacité des travailleurs à se mettre en grève, à se révolter, à se mobiliser et à défendre leurs intérêts. Et c'est aussi ce message-là qu'on essaye de faire passer dans ces élections européennes. Voilà.